Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Bonjour à toutes et à tous, 24 décembre, on est avec vous. Bonjour Gilles Gansman.
C'est Noël ce soir. J'ai mis du lait et des gâteaux près de la cheminée.
Ah bah très bien, vous avez mis votre masque aussi pour attendre le Père Noël. On va passer l'année en revue tout à l'heure avec les débatteurs à 11h moins le quart. Gérard Collard avec les derniers conseils de lecture. Et puis on a décidé de vous faire réécouter Bruno Solo et Tanguy Pastureau qui étaient venus nous voir. Alors Bruno Solo, c'est un livre, Les Visiteurs de l'Histoire, là aussi à glisser sous le sapin. C'est un livre d'histoire qui plaira peut-être pas 7 à 77 ans, mais de 14 à 77 ans, puisqu'il a décidé de rassembler les grands personnages de l'histoire à différentes époques. C'est un livre passionnant, drôle, bien écrit. Bruno Solo qui était venu nous voir sur Sud Radio. Vous venez pour un livre tout à fait épatant qui s'appelle « Les visiteurs d'histoire, quand l'histoire de France s'invite chez moi ». Ça paraît aux éditions du Rocher, je me suis régalée à lire ce livre. Alors, c'est vrai que vous avez un petit peu, on savait que vous aimiez l'histoire, mais à ce point-là, je ne pensais pas. Alors, on peut rappeler, alors peut-être faire le contexte. Vous animez depuis 5 ans hein, l'émission ouais. La Guerre des Trônes. Vous me disiez juste avant que c'était l'émission la mieux notée.
Oui, il semblerait, d'après ce que m'a dit France Télévisions, les gens de France Télévisions, que c'était l'émission la mieux notée au niveau de l'éveil pédagogique. Et voilà qu'elle était sur le Calimat, comme ils appellent ça, ouais. L'audimat et le Calimat, qu'elle était régulièrement en tête. Oui, c'est une émission où je raconte comment l'Europe s'est construite depuis la guerre de 100 ans jusqu'à ouais. nos jours. Là, on en est, cette saison, ce sera la mort de Louis XIV, le début de la Régence et le début du règne. La Régence et le début du règne de Louis XV.
Alors, vous êtes comédien, auteur, réalisateur, producteur, vous êtes au théâtre en ce moment, 10 ans après, David Fonkinos, aux côtés de Mélanie Page et Julien Boisselier. Donc ça, on pourra en redire un mot. Mais moi, ce livre, et je sais que Gérard Collard, notre libraire, le roi des libraires, l'a adoré. Il m'a dit c'est le meilleur livre de vulgarisation de l'histoire. Et quand je dis vulgarisation, c'est pas vulgaire. C'est qu'avec vous, vous nous prenez par la main. Racontez-nous comment vous organisez un dîner imaginaire.
Oui, l'idée du livre m'est venue il y a 2 ans et demi, 3 ans presque. Mais le thème, je l'ai trouvé pendant le confinement. C'est-à-dire, je me suis servi du malheur qui nous frappait pour en faire un bonheur littéraire, j'espère. Effectivement, je m'ai imaginé une sorte de dîner fantasmé avec 11 personnages qui ont marqué l'histoire. Qui sont ou mal connus comme Clovis oui. ou méconnus pour certains comme Christine de Pizan ou Théophraste Renaudot, bon à part des oui. exégètes de l'histoire oui. qui les connaissent oui. bien, et j'ai décidé de les inviter à ma table, sans geste barrière hein, c'est l'avantage des morts, hein, c'est que même s'ils sont bien vivants dans nos esprits, évidemment ils ne risquent pas de nous contaminer, et donc ils sont autour de moi et je les reçois les uns après les autres, donc ils se côtoient, ils échangent aussi entre eux, et moi je leur pose des questions mais en m'appuyant uniquement sur des recherches et de la documentation historique qui ont été faites par des gens qui m'ont aidé évidemment à trouver, parce que moi je ne suis pas chercheur, je ne suis pas historien, ils sont allés dans des archives, ils sont allés dans des bibliothèques et ils ont trouvé des éléments assez nouveaux, notamment sur ouais. Théophraste Renaudot ou le Cavalier de la Salle.
Oui, parce que c'est des noms qui évoquent des choses, oui. le Chevalier d'Éon, Aliénor d'Aquitaine, Renaudot. Je connais le prix, mais je connaissais
quasiment
pas.
Quasiment l'inventeur du journalisme
absolument,
moderne.
Absolument, absolument. Et Georges Mandel aussi, qui termine le roman.
Alors, Georges Mandel, il est fascinant parce que c'est l'homme qui a donné à De Gaulle l'énergie pour partir à Londres, parce que c'était lui qui était attendu à Londres, c'était Georges Mandel qui était attendu à Londres par Churchill, et c'est lui qui a donné la motivation nécessaire à De Gaulle, parce qu'il a dit, si moi j'y vais, je serai toujours le juif qui a fui la France, vous êtes un homme nouveau, et il l'a dit dans ses mémoires de Gaulle, à quel point Georges Mandel a été essentiel dans sa réflexion.
Oui. Alors c'est sympa, Gilles, sympa parce qu'il y a c'est actuel, c'est-à-dire que vous, c'est chez vous, donc il y a les relances que vous faites comme dans un vrai dîner. C'est très drôle sur Clovis parce que vous dites il arrive mais je le reconnais pas parce qu'en fait il n'y a pas de visage de Clovis.
Il n'y a pas de portrait officiel
Donc c'est
des portraits fantasmés.
Absolument.
De tous les personnages avec qui vous aimeriez devenir pote, copain, qui aurait aurait été un ami pour vous.
Pas Clovis. Bon, alors, Clovis, il est un peu chatouilleux. Hein, ouais. C'est-à-dire que le vase de Soissons, c'est une vraie anecdote, hein, ouais. Vérifiée par des historiens, c'est qu'il a vraiment fracassé le crâne du type qui avait brisé le vase de Soissons, et donc, qu'il avait amoché en tout cas. Non, je pense que celle qui me fascine le plus, c'est Christine de Pisan.
Ah, j'ai découvert ce personnage incroyable.
Une femme née en 1380, à la fin du XIVe siècle, et qui a été la première femme en France à vivre de ses écrits, philosophe, militante féministe, comme pouvait l'être le féminisme dans ces années-là, quand même, évidemment, totalement soumise à un patriarcat encore plus puissant qu'il ne l'est aujourd'hui, qui a tendance à disparaître, mais qu'une femme d'une délicatesse, d'un courage, qui s'est battue toute sa vie pour exister au milieu d'hommes qui l'a méprisée, et qui a écrit pour des hommes, qui a même écrit des ordres de chevalerie. J'aime beaucoup aussi le Cavalier de la Salle, même s'il est totalement infréquentable, parce que c'est un grand mythomane, un baratineur qui a fait semblant de découvrir la Louisiane, qui a pris de l'argent à Colbert et à Louis XIV, mais de manière absolument éhontée, mais qui est tellement drôle, une sorte de d'Ulysse sans Ithaque, de Don Quichotte sans idéal.
Comment vous savez qu'il est aussi drôle?
Parce que j'imagine qu'il est drôle. Parce que moi, évidemment, m'appuyant sur des faits historiques, j'en fais un personnage comique, qui est un peu baratineur, un peu hableur.
Je veux dire, pour vous donner le ton, c'est le cavalier, le chapitre sur le cavalier de la salle. Cavalier de la salle cavalier commence comme salle. Ça. Si je n'interviens pas, c'est sûr, la porte va sortir de ses gonds et atterrir dans mon salon. Alors que je l'entrouvre, une silhouette massive vêtue d'un manteau écarlate m'écarte du coude. Brutale irruption s'accompagnant d'une subtile fragrance de sous-bois qui ne parvient pourtant pas à camoufler le fumet plus que rustique d'un castor mouillé. Entre, René Robert, fais comme chez toi. Que n'ai-je dit d'emblée, le voilà qui plante une croix dans mon plancher et brandit son épée en s'écriant, selon la formule consacrée au nom de sa majesté, je prends possession de cette terre. Voilà. Il prend possession de votre salon. Donc c'est vraiment... sympa à lire aussi. C'est ce que je veux dire, c'est que l'histoire, ça peut faire peur. Hein. C'est ce que dit Benjamin Briot
d'avoir Benjamin Briot qui s'occupe de la chaîne Nota Bene et qui est vraiment un grand vulgarisateur d'histoire dont je me sens très proche, même au niveau des idéaux. Il en parle effectivement
En disant l'histoire c'est chiant, et c'est vrai que c'est un peu l'image que ça pouvait avoir. Et vous remerciez votre prof d'histoire à la fin du livre, parce qu'on a tous eu un prof qui nous a fait aimer l'histoire.
Ou des matières différentes. Moi, c'est l'histoire, effectivement. Mais vous savez, l'histoire, c'est surtout des histoires. Et quand on vous raconte quand on est petit, on aime qu'on nous raconte des histoires. On aime jouer et qu'on nous raconte des histoires, inventer des histoires. Donc, la grande histoire, si vous prenez le terme presque d'un point de vue sémantique, ça ne peut être que passionnant dès lors que c'est dit avec fièvre. Moi, je crois vraiment que la fièvre du langage l'emporte sur tout et que, autrement, les discussions sont des bavardages. Et l'histoire, c'est tout sauf du bavardage. C'est éclairer un petit peu, c'est éclairer notre époque de manière très ludique. Et moi, j'essaye de le faire de manière ludique.
La différence avec un autre écrivain, c'est que vous êtes cinéaste et ça se sent dans le livre que vous fonctionnez avec des images. Donc, on arrive très bien à imaginer.
Oui, on visualise très bien.
Et je pense que ça vous a aidé aussi, comme un metteur en scène, vous mettez un peu en scène vos repas.
Voilà, et je suis aussi comédien, donc je pense que ça m'a aidé aussi de m'imaginer en train de jouer avec eux, parce que des fois, c'est moi qui
le... Faites-le pour la télé, ça pourrait être drôle.
Vous avez incarné des...
Non, mais j'ai incarné des personnages historiques des fois, mais c'est vrai que là, ce serait plutôt pour le théâtre. Si je devais adapter ce livre, imaginer un dîner comme ça avec des personnages historiques, c'est vrai que ce serait assez drôle de le faire au théâtre. Mais chaque chose en son temps, pour l'instant, je suis tellement concentré sur ce livre, et j'espère effectivement qu'il va rencontrer un public. Et j'ai fait exprès de ne pas prendre des personnages nécessairement très connus. Alors, Aliénor d'Aquitaine, évidemment très connu, mais rentrer dans le détail un peu intime de leur histoire.
C'est ça, la visée moine de Charlemagne. Moi, je ne connaissais pas.
Alcuin, c'est incroyable. C'est lui le vrai, véritable inventeur de l'école, l'écolâtre. C'est lui qui a inspiré à Charlemagne l'idée de faire que l'école soit à la portée de chacun et de chacune. Alors, évidemment, Charlemagne en a fait une école palatine, une école un petit peu pour les grands de ce monde. Mais quand même, l'idée d'Alcuin, c'était que l'éducation pouvait élever le peuple. Et quand le peuple s'élève, il s'estime. Alors que quand vous le tirez vers le bas, bah, il se méprise et il devient méprisable.
Et à tous ces personnages, on leur sert quoi à manger ?
Alors ça rentre pas trop dans le détail.
Mais il n'y a pas de vaisselle à faire, en tout cas, voilà. Ça on l'a compris.
C'est ce que je me dis, c'est un dîner imaginaire, donc j'imagine... C'est... Il picole beaucoup, oui. Ouais. Clovis picole beaucoup, ouais. Mais les autres sont plus frugaux.
C'est extrêmement bien écrit, il faut vraiment le signaler. J'ai beaucoup aimé cette phrase, c'est dans le passage sur Georges Mandel, où vous dites « Alors forcément, très vite, sous le pelage du jeune chien de garde, pousse déjà la fourrure du jeune loup et la fringale qui va avec. Ouais. » C'est vraiment une... Ouais. C'est très imagé, ce que disait Gilles, c'est très imagé, très, très bien écrit. Quel regard vous portez, vous, aujourd'hui, sur la manière dont on revisite l'histoire, justement, à la fois avec le wokisme, c'est-à-dire qui veut qu'on, avec notre regard d'aujourd'hui, on juge ce qui a pu être fait dans le passé.
Mais c'est essentiel, il faut quand même, on ne revisite pas l'histoire, on la visite, et quand on la visite, on y amène aussi un peu de soi, et on doit être objectif vis-à-vis de périodes qui sont plus ou moins, qui ont été plus ou moins fantasmées, ou plus ou moins idéalisées. Aujourd'hui, il s'agit de revenir dessus, il ne s'agit pas toujours de tout fracasser, mais je trouve que l'idée, par exemple, bon, effectivement, de faire tomber des statues d'esclavagistes, ouais, est peut-être exagérée, mais en revanche, expliquer avec, oui, des plaques que ce personnage, que Federico Fellini, n'est peut-être, ouais, pas le personnage un peu idéalisé qu'on a eu à une époque, je trouve que c'est intéressant. Et puis, parler de l'histoire, ça soumet, ouais, chacun d'entre nous à l'idée d'un débat, et le débat, c'est essentiel pour faire avancer notre société. Mais, et l'histoire, elle n'est pas figée. Les certitudes d'aujourd'hui sont les doutes de demain, quoi.
Quand commence la France ? Alors, pour certains, elle commence à Clovis, pour d'autres, elle commence à la Révolution française.
C'est le grand débat que, oui, je pose avec Clovis,
absolument,
parce que, ouais, effectivement, beaucoup de gens se sont opposés. Clovis a été beaucoup récupéré par les nationalistes. Après la Révolution, a voulu dire que la France commençait à Vercingétorix. La France, elle commence quand elle veut, peu m'importe, moi, quand elle commence. Elle commence à partir du moment où elle s'organise, à partir du moment où elle devient une nation consciente d'elle-même. C'était pas tout à fait le cas avec Clovis,
non,
c'était quand même des tribus mises les unes à côté des autres. On pourrait dire, si on s'arrêtait vraiment, ce serait quand même avec les Capétiens que l'idée d'une nation commence, voilà. Mais moi, peu m'importe, ce qui m'importe, c'est ceux qui l'ont construite et la manière dont elle s'est construite, avec toutes ses valeurs, avec toutes ses obédiences, avec toutes ses diversités, avec toutes ses cultures. Et moi, la France, je crois qu'elle est pleine et entière, et c'est là qu'elle me fascine, quoi.
Moi, j'aimerais bien recevoir Marie-Antoinette ou Louis XIV à table.
Hein,
qui nous raconte un peu
absolument,
la vie,
c'est une très bonne idée. Tanguy Pastureau était venu nous voir. Il est en tournée en ce moment. Et avec lui, on avait bien rigolé. Puis on avait évoqué la célébrité. Et puis ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut plus rien dire. Tanguy Pastureau. Est-ce qu'une fois, vous avez dit des choses, une chose qui a été reprise, qui a été montée en épingle par les réseaux sociaux ?
Non, pas trop. Ou alors, ça a jamais... Parce que moi, j'aime bien tourner autour du pot aussi. J'aime bien ne pas dire les choses comme ça, brutalement. Et j'aime faire en sorte, voilà, que les gens ne se sentent pas agressés inutilement. Donc même, ouais, si je dis un truc un peu hard, j'essaie toujours d'inclure tout le monde. Parce que je pense que c'est encore possible. Et de pas brusquer, ça sert à rien. Donc finalement, j'ai pas de retour de bâton qui soit excessif, quoi.
Ouais.
Parce que,
ouais,
je pense que quand on essaie de s'appliquer à l'écriture, on peut, ouais, aller chercher tout le monde. Après, il y aura peut-être un jour, hein. C'est pas, ouais, j'ai parfois eu des réactions de politique sur tel ou tel truc, mais ça.
Et le rapport à la célébrité, je rappelle votre spectacle qui est en tournée.
Oui.
Tanguy Pastureau n'est pas célèbre et il s'en fout.
Oui.
Vous en foutez vraiment?
Ah ouais, totalement.
Ça a changé votre vie ou
non,
pas
de
passer à la télé? Vous étiez chez,
non,
Thierry Ardisson, donc là c'était,
non, ça a pas changé
très
ma vie,
exposé.
Non, pour moi c'était vraiment un rêve de travailler avec des gens comme ça, parce que je les regardais petits en fait, je les regardais, ouais, quand j'étais ado, quand j'étais enfant pour certains, et pour moi c'était, j'ai accepté ces jobs vraiment par nostalgie de ma propre enfance, mm-hmm, très sincèrement. C'est travailler avec Ardisson que je regardais quand j'étais jeune, pour moi c'était un rêve, je me dis aujourd'hui j'ai fait ça, donc je suis content.
Jamais déçu quand vous les rencontrez en vrai?
Non, pas, alors Ardisson non, parce que c'est vraiment un personnage atypique, ouais, qui d'ailleurs, ouais, me poussait lui à aller encore plus loin. C'est-à-dire, ouais, qu'il me disait vas-y, défonce-les, enfin, des trucs, ouais, incroyables, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Personne ne dit ça en télé, mais c'était quelqu'un qui était, on peut le dire, en fin de carrière quand même, qui n'avait plus grand-chose à risquer.
Oh bah, là, il a touché le 5,15 millions, vous allez lui demander une petite part des 5 millions.
Bah non, c'est lui qui a créé l'émission, c'était par rapport aux Terriens qui existaient depuis tellement longtemps déjà. Il y a eu Gaspard Proust avant, Stéphane Guillon, il y a eu beaucoup de gens qui pourraient lui demander plus d'argent, hein, que moi. Parce que moi, j'ai fait 2 ans, j'étais sur la fin de l'aventure des Terriens, quoi.
Bon, Ardisson, il a toujours été très, très iconoclaste, hein, de toute façon. Donc
oui,
c'est,
oui.
C'était.
Il est vraiment libre, enfin, moi, je trouve. Quoi.
Et
voilà,
alors, celui
il...
qui vous a déçu ?
Bah, il n'y a pas grand monde qui m'a déçu, en fait, parce que j'attends pas grand chose des gens. Tout simplement. Mais vraiment, hein, j'ai un côté, ouais, je crois pas trop en l'être humain, je pense, peut-être. Et donc, du coup, j'attends pas des choses démesurées, quoi. Donc, Arthur, moi, je me souviens, je l'ai trouvé tel que je l'imaginais quand j'étais ado et qu'il faisait de la radio sur Europe 1 avec les pirates et que j'écoutais ça. Ouais, j'ai trouvé un type qui vieillissait pas trop, finalement. Je sais pas si c'est une qualité ou un défaut à son âge, mais en tout cas, voilà, j'ai toujours trouvé des gens assez frais. J'ai fait Zemmour et Nolo. Ouais. Moi, ça m'a plu aussi. J'assume d'avoir bossé à côté d'Éric Zemmour et c'est un type qui, humainement, était vraiment très chouette. Et c'était pas la même époque en même temps. Ouais. Il disait pas les mêmes trucs et il avait pas le personnage d'aujourd'hui. Non, vraiment,
vous
toutes ces expériences, moi, mon. Pardon?
Vous m'avez répondu.
Ah oh, bah ça je peux pas le dire, moi généralement non, si sexuellement il fait la même chose que politiquement je vous raconte pas le coup que ça doit être parce que Zemmour, voilà, il est dans le préliminaire depuis des mois et on sait pas où il va, c'est étrange quand même.
Vous écrivez vos propres textes?
Oui tout, hein,
important ça, parce que parfois il y a des humoristes qui s'entourent
d'auteurs.
Vous avez commencé comme auteur en fait, donc
auteur de moi-même, oui, ouais. Parce que je trouve qu'il est important dans le rapport au public de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur et ce qu'on pense. Parfois je fais des chroniques politiques qui sont pas engagées parce que j'ai pas un engagement politique délirant, je me sens plutôt apolitique. Alors généralement on dit que c'est les gens de droite qui se sentent apolitiques, mais j'en sais rien. Mais sur l'environnement, sur les animaux, parce que voilà, c'est trucs.
Ah bah Sandrine Rousseau, elle vous aide à être comique.
Ah bah voilà, voyez, Sandrine Rousseau, des écologistes.
Dans le documentaire, il y a Alex Vizorek, Jean-Philippe Janssen, Jérémy Ferrari, Laura Lone, Arnaud de Samer, Bérangère Krief, Monsieur Fraise et Alban Ivanov. Il y a un point commun à tous ces humoristes.
Non, je pense pas. Non. Et c'est ça qui est chouette, justement. Ouais. C'est-à-dire que la scène, l'humour aujourd'hui est tellement, est tellement varié, est tellement énorme. Il y a un nombre d'humoristes délirants. Je pense qu'on n'a jamais vu ça, en fait. On n'a jamais
connu
ça. Il y a beaucoup de gens, mais dans tout, en fait. Avec les télécrochets, il y a plein de chanteurs aussi. Il y a plein de tout, en fait. Donc, c'est ça que je dis aussi dans mon spectacle, c'est que plus personne n'est réellement célèbre. Il y a des demi-célébrités, quelques célébrités vraiment par domaine, mais sinon, tous les autres sont plus ou moins célèbres. Et non, on se ressemble pas. Je pense pas qu'on dise vraiment la même chose. Et moi, je suis pas voilà.
Non, alors, c'est... des commentaires. Il manque vraiment une tranche d'humour sur Sud Radio. Bah voilà, bienvenue. Tant qu'il est pas sûr, on va vous débaucher.
Vous en avez eu quand même. Il y a Walter.
Il y a Walter
toujours.
Et puis on a Guy Carlier dans un autre.
Il y a Guy Carlier.
Il y a Guy Carlier.
Ah, mais je savais pas qu'est-ce qu'il est bon.
Tous les jours à 7h50.
Il est très très bon. Voilà, Tanguy Pastureau, toujours en tournée, sur scène, humour pince sans rire qu'on aime beaucoup. Dans un instant, c'est Gérard Collard avec des conseils de lecture.